Choc, tension, crispation, division, violence, notre société et notre monde vacillent, et l'espérance dans tout ça, Marie-Pierre.
Ne craignons pas les crises, l'espérance, la profession de foi du cardinal François Bustillo, évêque d'Ajaccio, qui, dans son tout nouveau livre « Réparation », alors dans lequel il dresse le constat d'une société abîmée, nous appelle cependant à réparer la politique et à réajuster notre rapport à l'autre. Je crois qu'il est important de rester dans l'espérance, malgré tout. C'est ce qu'il confie à nos confrères de famille chrétienne, et de rappeler aussi que le Seigneur a demandé à Saint François non pas de créer une église nouvelle, pure, parfaite, mais de réparer quelque chose qui avait été abîmé. Autre questionnement. Comment l'Église peut-elle se situer et prendre sa place sur toutes ces lignes de fracture? Mouvements sociaux en France, conflits israélo-palestiniens, vie de l'Église bousculée. Dans un entretien accordé à la Croix, Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, tout nouveau président de la Conférence des évêques de France, élu au printemps dernier, dessine sa vision et ses priorités pour l'Église de France. Une institution qui doit, selon lui, sortir de l'obsession de sa survie pour réparer encore les fractures de la société française. Il s'agit pour l'Église, et je le cite, de s'ajuster au geste de Dieu.
Et pour certains chrétiens, d'ajuster leur foi à la situation tendue de notre pays.
Eh oui, Jonathan, écoutez bien. Une partie de l'Église sera présente à la manifestation du 18 septembre. Pourquoi ? Pour clamer son refus de la misère. Des mots que je lis sur lacroix.com sous la plume du directeur du CERAS et de la revue Projet, le jésuite Marcel Raymond, pour qui la défense du bien commun légitime la participation des chrétiens au mouvement. Si l'Église ne peut prendre parti, pour Marcel Raymond, le mouvement du 18 septembre sera, a été également bien porté par des catholiques. Certains y seront, y ont été, au nom de l'ACO, l'Action catholique ouvrière, du mouvement rural de la jeunesse ou bien encore du syndicat CFTC. D'autres y seront, y ont été simplement en tant que citoyens et chrétiens, des soignants, des acteurs sociaux ou des enseignants qui entendent défendre à la qualité des soins, de la protection sociale ou de l'éducation. Dans la même tribune, vous découvrirez, alors si vous ne le savez déjà, que si l'Église de France ne s'exprime pas en matière de grève, ce n'est pas le cas de la doctrine sociale de l'Église. Petit rappel, la position de l'Église a évolué au fil des années. Léon XIII, dans l'encyclique Rerum Novarum, en 1891, considère la grève comme indésirable. Il faudra attendre 1981 et l'encyclique de Saint Jean-Paul II, Laborem Exercens, pour que soit défendu non seulement le droit de grève, mais également sa légitimité, et ce de façon nette et vigoureuse. Même si ce texte est assez peu cité, il reste la position officielle actuelle de l'Église. Benoît XVI et François n'y ont pas apporté de modifications, précise Marcel Raymond.
Alors, on se décentre avec le magazine La Vie qui, cette semaine, donne la parole à des chrétiens irakiens, arméniens et chinois.
Oui, à des chrétiens d'Irak qui vivent en France et dont la plupart sont arrivés en 2014 après l'invasion de leur région, la plaine de Ninive, par Daesh. Aujourd'hui, ils se sentent menacés jusque dans notre pays. L'assassinat, le 10 septembre dernier à Lyon, de l'un des leurs, Ashur Sarnaya, un homme paralysé depuis l'enfance et qui aimait parler de sa foi chrétienne sur les réseaux sociaux, renforce son sentiment d'insécurité et réactive le traumatisme. Tous ces gens ont vécu Daesh, rappelle Anisana, frère dominicain qui accompagne la communauté. Ils ont choisi de venir en France et considèrent ce pays comme leur maison. Alors un événement comme celui-ci leur donne l'impression que le cauchemar recommence. Cauchemar, traumatisme aussi pour les chrétiens du Haut-Karabakh. 2 ans après le nettoyage ethnique mené par l'Azerbaïdjan, le diocèse en exil de cette république autoproclamée tente, depuis l'Arménie, de défendre les droits de ses 100 000 exilés.
Et enfin, la vie se tourne vers la Chine.
7 ans, presque jour pour jour. Après la signature de l'accord Chine-Vatican, l'élection d'un nouveau pape sonne l'heure du bilan. Pour l'instant, l'heure est à l'observation. Marie-Lucille Kubacki, dont vous lirez la fine analyse, nous parle d'un travail et d'une diplomatie tout en dentelle. Vous lirez également le témoignage sur le terrain de l'anthropologue et théologien Michel Chambon. Il nous raconte comment, depuis les accords de 2018 entre la Chine et le Vatican, dans le diocèse de Nanping, les communautés catholiques dites souterraines et officielles apprennent peu à peu à cohabiter. Mais en Chine, l'espérance ne peut pas faire fi du passé. Après des décennies de vie ecclésiale tourmentée, des blessures et des méfiances demeurent. Confiance et communion sont choses à construire jour après jour, année après année. Alors pour comprendre ce poids et cet héritage du passé, Marie-Lucille Kubacki nous invite avec l'historien Alexis Balmont à nous replonger dans les méandres de l'histoire chinoise et de se souvenir alors que le christianisme fut officiellement reconnu et toléré en Chine par décret impérial en 638. Un papier passionnant qui lève le voile sur cette réalité peu connue.
Et pour terminer, Marie-Pierre, vous avez une surprise en or.
Oui, certains triomphes résonnent bien au-delà des stades et des victoires prennent une saveur toute particulière en ces temps troublés. Un Français, Jimmy Gressier, vient d'être sacré champion du monde sur 10 000 mètres. C'était le 14 septembre dernier à Tokyo. Alors un fait anecdotique au regard de l'actualité si troublée, s'interroge Priscilla de Selve dans son édito de la vie. Pas tant que cela si on se donne la peine de s'arrêter sur cet athlète dont le parcours étonne et pourrait à bien des égards inspirer ses contemporains. La victoire du coureur de Boulogne-sur-Mer, parfait outsider, est un hymne silencieux à une valeur négligée, l'effort. Nous en parlions la semaine dernière, de l'effort. Le message de Gressier, écrit notre consoeur, résonne comme une évidence oubliée. Dans une époque qui carbure à l'indignation et au buzz, il existe une autre voie, celle de l'obstination silencieuse, de la construction patiente, du refus de baisser les bras, celle qui transforme les gamins des quartiers populaires en champions du monde.